Session Deus Caritas Est, juillet 2012. La gratuité du service de la charité par Gonzague et Camille Debussy.
À la demande de Père Bernard, nous devons témoigner sur la gratuité du service de la charité dans notre vie. Après nous être longtemps demandé ce que nous allions bien pouvoir vous raconter, l'élaboration de ce témoignage et les échanges que nous avons eus entre nous ont fait grandir notre unité et notre amour. Et vraiment, nous vous en remercions, Père Bernard. Après nous être présentés, nous vous évoquerons comment nous essayons de vivre la gratuité du service de la charité dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans l'éducation de nos enfants, dans nos devoirs d'État et dans notre vie de foi. Enfin, quels sont les moyens qui nous semblent importants pour vivre la gratuité du service de la charité ? Donc, je commence par me présenter. Je suis le troisième d'une fratrie de 6 enfants. J'ai été élevé dans une famille de tradition catholique pratiquante. Nous étions fidèles à la messe du dimanche et un peu moins pour la prière en famille. J'ai appris le don de soi et la charité fraternelle au sein de la fratrie et par le scoutisme. Mais tout cela était enfoui dans une relation assez superficielle à Dieu. Ma vie d'adolescent a été assez rangée, sans être trop portée vers le Seigneur. Et les études de médecine à Nantes n'ont pas encouragé les choses, avec les soirées étudiantes et toutes leurs conséquences. Malgré tout cela, la Providence a permis que je reste fidèle à la messe du dimanche et parfois en semaine. Et puis je me suis finalement retrouvé dans un groupe de prière par le biais d'amis où j'ai rencontré Camille.
Alors moi, j'ai eu un environnement familial différent. Nous sommes 2 filles avec une maman protestante et un papa catholique. Baptisés bébés, nous allions régulièrement à la messe avec papa jusqu'au milieu du collège, mais je n'avais pas de vie de prière. J'ai fait du scoutisme, ce qui a éveillé ma foi, mais il n'y avait aucune continuité avec la vie familiale. Puis au lycée et dans la vie étudiante, des amitiés m'ont ramenée vers Jésus, au début de façon très mondaine, et progressivement avec les rencontres, les JMJ, des lectures, des enseignements et nos fiançailles, ma foi est devenue plus profonde. Nous nous sommes rencontrés donc dans un groupe de prière à Nantes. Après 2 ans d'observation et d'apprivoisement, nous nous sommes fiancés. Fiançailles assez longues de 18 mois, avec toutes les difficultés et les joies que rencontrent les fiancés. Nous nous sommes mariés le 31 mai 2003 à Nantes. Nous avions vraiment le souci d'ancrer notre couple sur le Christ, avec le désir de conduire l'autre à la sainteté et de se laisser conduire par la Providence. Dès le début de notre mariage, nous avons connu la communauté avec les week-ends foyers au Grand Fougeray. Les dominies nous ont beaucoup guidés dans notre vie de foi. Nous nous sommes engagés comme foyer amis en 2009. Nous avons 5 enfants et la Providence nous a amenés à Belin-Belier dans le sud de la Gironde où Gonzague a posé sa plaque de médecin généraliste il y a 3 ans.
Aimer ceux qui nous sont les plus proches au quotidien et aimer tout le monde n'est pas une évidence. Il nous faut faire un acte de volonté. Vouloir aimer et aimer sans rien attendre en retour dans la fidélité. Cela est d'abord vrai dans un autre couple où l'amour doit être oblatif et non possessif. Je veux le bien de l'autre et non le mien, et ceci pour toujours. Lors de notre sacrement de mariage, nous nous sommes promis fidélité dans le don désintéressé de notre amour. Je te reçois comme épouse, comme époux, et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves, tout au long de notre vie. Nous devons nous redire oui chaque jour, et pour purifier notre amour, les cordées de couple, les week-ends foyers, et le directoire des foyers amis nous aide beaucoup. Notre amour a grandi et continue de grandir lorsque nous développons le jamais rien l'un sans l'autre. Nous essayons de rester unis dans tous les choix et les décisions à prendre jusque dans le quotidien. Si Camille sait qu'une consultation difficile m'attend, elle s'efforce de s'unir à moi par la prière. Et à l'inverse, si elle a une journée éprouvante à organiser, avec une consultation pour Joseph au CHU, elle peut compter sur mon soutien spirituel.
Concrètement, les temps de prière jalonnent nos journées, personnellement, en couple et en famille. La journée que nous essayons de vivre en présence de Dieu commence et finit par la prière. Nous donnons gratuitement ce temps à Dieu, temps précieux pris dans nos journées souvent chargées, mais finalement temps indispensable pour faire grandir notre amour pour Dieu, notre amour en famille et notre amour pour les autres. D'ailleurs, nous avons souvent fait l'expérience que ce temps tout donné à Dieu décuple le temps. Nous sommes parfois tentés de zapper le chapelet en famille à la fin d'une journée chargée, fatigante ou quand nous sommes en retard. Nous nous y tenons quand même, tout se fait, le chapelet, les bains, les devoirs, le dîner et les enfants ne sont pas couchés plus tard que d'habitude.
L'exemple étant important dans l'éducation des enfants, nous essayons d'avoir une vie unie et vraie. Unité dans notre vie de foi, unité dans notre vie de couple, unité dans notre vie professionnelle et familiale, unité dans notre vie sociale. Cette cohérence de vie au service de la charité nous semble importante dans le monde actuel où nous allons souvent à contre-courant de ce qui nous entoure. Nous ne cachons pas aux enfants les réalités du monde à la mesure de leur âge. Réalité de ce monde individualiste et utilitariste, où l'intérêt prend le pas sur l'amour gratuit, où il faut produire plus que servir. L'accueil de Joseph, notre quatrième enfant atteint de trisomie 21, a été pour nous l'occasion d'expliquer aux enfants que les trisomiques sont les enfants considérés comme inutiles et coûteux pour la société, et donc, dans la plupart des cas, avortés. Joseph, effectivement, ne construira pas des ponts suspendus. Il ne conduira pas, il ne se mariera pas, il ne présentera pas le JT de TF1. Mais ce qui est sûr, et nous l'expérimentons tous les jours, il est capable, et il sera capable, de se donner, et de donner de l'amour sans rien attendre en retour.
Et cela bien mieux que nous. Toute la famille l'aime sans se forcer, et lui nous le rend bien. Joseph fait l'unité de notre famille, et il fait grandir la charité dans notre famille. Ce jamais rien l'un sans l'autre est important pour l'amour du couple et primordial dans l'éducation des enfants. Les enfants grandissant, nous réalisons combien l'exemple est premier. La manière dont nous nous aimons, dont nous les aimons et dont nous aimons les autres ont bien plus de répercussions sur eux que nos grands discours. Les enfants aimeront d'autant plus gratuitement que leurs parents vivent de leur côté un amour gratuit. L'amour est contagieux. En début de grossesse, je suis à chaque fois très malade. De voir Gonzague attentionné et aux petits soins déteint sur les enfants qui débordent d'imagination pour rendre service. Avec nos enfants, nous luttons pour montrer notre amour quelle que soit leur conduite. Donner son temps le soir à un enfant qui a été odieux toute la journée demande une grosse dose de gratuité.
Se pardonner, c'est aussi expérimenter le gratuit. Le pardon n'est pas un droit. Il ne se compte pas, il se donne. Quand la colère a pris le dessus devant les enfants, et nous essayons de nous pardonner, de nous demander pardon et de nous pardonner lors de la prière familiale. Le service de la charité s'exprime différemment pour moi et pour Camille, chacun dans notre devoir d'État. Pour moi, dans l'exercice de la médecine générale, il y a le service de la médecine, avec un acte ou un soin rémunéré auquel s'ajoute la relation à la personne. Le patient n'attend pas uniquement l'aide médicale, mais aussi le réconfort et le soin de l'âme. Benoît XVI parle, au paragraphe 31, de l'attention du cœur. Les hommes, aujourd'hui, ne vont plus voir le prêtre, mais le médecin. Comme dit notre curé, c'est le syndrome de la carte vitale. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et cela m'arrive parfois d'en conduire certains vers le médecin des âmes. Et puis certaines consultations, comme les demandes de contraception orale ou d'avortement, sont des temps où j'expérimente la gratuité du service de la charité. Temps d'écoute attentive de ces femmes, retard important au planning de consultation, parce que je tiens à prendre le temps d'expliquer pourquoi je ne prescrirai pas, pas d'honoraires perçus, et souvent ces consultations sont épuisantes nerveusement. Les consultations sont souvent perçues comme un échec humain dans ces cas-là, et elles sont confiées le soir comme intention dans notre prière conjugale. Nous prions aussi en famille, avec les enfants, pour certains patients malades ou mourants. J'essaye aussi de faire dire des messes pour les patients décédés. Un autre moyen pour moi d'expérimenter le gratuit dans mon exercice médical est de reverser la totalité des honoraires perçus des dimanches de garde en intention de messe. Ainsi, ce travail effectué le dimanche est offert pour le Seigneur. D'ailleurs, depuis que nous avons pris cette décision, il y a beaucoup moins d'appels et je peux aller à la messe sans être dérangé par le téléphone et surtout, eh oui, je peux communier.
Nous nous efforçons de transmettre aux enfants la vérité en leur donnant le goût de l'effort et du sacrifice. Les temps liturgiques de l'Avent et du Carême y sont propices avec tous ces efforts que l'on offre à Jésus. Nous avons pris l'habitude, pendant l'Avent et le Carême, de tirer au sort chaque soir, enfants et parents, un effort que chacun s'appliquera à vivre le jour suivant, en ayant comme image de retirer les épines de la couronne de Jésus ou d'alléger sa croix, et de garnir le ciel d'étoiles au-dessus de la crèche pour le temps de l'Avent. L'enfant apprend ainsi le sens du sacrifice. Il apprend à se donner gratuitement pour Jésus, sans intérêt humain. Toutes les petites frustrations du quotidien sont aussi occasion d'effort. Laisser sa place pour se mettre derrière, partager un reste de gâteau, ne pas râler face à un refus de notre part, mais l'offrir pour un malade, quelqu'un dans l'épreuve ou pour une âme du purgatoire. Les yaourts aux fruits sont chez nous occasion de privation. Tout le monde veut le citron, mais il n'y en a que deux. Alors, qui se privera de son goût préféré pour le laisser à l'autre? Les vies de saints, écoutées en voiture ou pour ramener le calme pendant un repas trop agité, ces vies sont d'un grand secours pour encourager les enfants et donner des exemples. La vénérable Anne de Guigné, morte à 11 ans, disait que la joie qui demeure est celle d'avoir fait un sacrifice et que ainsi on accumule un trésor dans le ciel. Nous voyons dans notre fratrie que cet esprit de sacrifice est plus facile pour certains enfants, mais que celui qui le fait plus naturellement tire les autres au sacrifice. On est alors dans l'émulation de la charité, même si c'est à dose homéopathique. Nous aimons d'autant plus gratuitement que ceux que nous aimons aiment eux aussi gratuitement.
En couple, nous nous mettons au service de l'amour en tant que moniteurs de la méthode Billings. Nous essayons de rester disponibles à tout moment pour accompagner les couples qui, bien souvent, au-delà de la simple régulation des naissances, demandent un soutien conjugal. Malheureusement, nous sommes marqués par le péché originel.
J'ai oublié une feuille. Hein? Je n'ai pas parlé de ma vocation, dans mon devoir d'état.
Je me suis trompée dans mes feuilles. Bon, je vais vous parler de la gratuité de la service de la charité dans mon devoir d'état. Sainte Thérèse disait « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà ce qui, pour moi, semble être le service de la charité dans mon devoir d'état de mère au foyer. » Aimer et s'oublier dans le soin aux enfants, l'entretien et l'organisation de la maison, la gestion de l'intendance et les repas qui reviennent trois fois par jour. Et inutile de vous préciser que ce service est complètement gratuit. J'essaye donc de me mettre à l'école de Sainte Thérèse et de faire tous ces gestes du quotidien, très répétitifs et pas toujours valorisants aux yeux des hommes, de les faire avec amour dans le secret de notre maison, en évitant de m'enfermer dans la contrainte, mais sous le regard de Dieu. La petite Anne de Guigné est aussi encourageante pour moi que pour les enfants. Je pense à mon trésor dans le ciel et aux âmes à apporter à Dieu. Donner gratuitement, c'est aussi pour moi le combat de ne pas donner à Gonzague, aux enfants ou aux autres, que le temps qui m'arrange dans mon emploi du temps, mais de savoir me laisser déranger, savoir tout laisser pour être entièrement disponible, tout donner à l'autre. On entend souvent qu'il faut penser à soi, surtout pour la mère de famille. S'oublier, penser au bien de l'autre, demande certes des renoncements et des sacrifices, mais n'oublions pas que la joie qui demeure est celle d'avoir fait un sacrifice. Sinon, j'essaye de transmettre cette charité et tout ce dont nous vous témoignons ici en faisant le catéchisme au sein de la paroisse, de le transmettre aux enfants ainsi qu'à leurs parents.
Malheureusement, nous sommes marqués par le péché originel et nous ne pouvons pas posséder et pratiquer cette charité parfaite, gratuite et désintéressée. La prise de conscience de notre faiblesse, de nos manques de charité, nous humilie et nous fait grandir dans la charité. Et seuls, nous ne pouvons y arriver. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin des sacrements. C'est pour cela que nous essayons de mettre Dieu dans le coup, à la première place, comme nous vous l'avons dit au début. Dans les sacrements qui nous aident, il y a celui de la confession. Nous essayons d'y aller régulièrement en famille pour être pardonnés et obtenir des grâces et des forces pour purifier notre charité.
Il y a aussi le sacrement de l'Eucharistie. Par ce sacrement, nous recevons celui qui est l'amour. Benoît XVI, au chapitre 13 et 14 de son encyclique, nous dit que l'Eucharistie nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus et nous entraîne dans la dynamique de son offrande. Il écrit aussi que la communion nous tire hors de nous-mêmes vers Jésus et en même temps vers les autres chrétiens pour former un seul corps. L'amour peut alors être voulu parce qu'il est d'abord donné. Bien que célébré tous les jours dans notre paroisse, les horaires ne nous permettent pas d'en profiter. Mais nous le faisons pour les solennités le plus souvent en famille, quand Gonzague peut se libérer du cabinet. Ceci nous permet de bien rester unis à la liturgie de l'Église. Nous essayons de multiplier avec les enfants de courtes mais régulières visites à Jésus au tabernacle. Ces temps d'adoration nous permettent de puiser à la source de celui qui est l'amour, de celui qui se donne parfaitement et gratuitement. Les enfants savent que le dimanche est le jour du Seigneur. Nous essayons que ce jour soit un jour différent et surtout un jour sanctifié où Dieu tient la première place. On essaye de lire l'Évangile en famille la veille ou le matin. Il y a la messe, bien sûr, un déjeuner soigné, une belle table et une tenue vestimentaire soignée elle aussi. On passe du temps en famille, balades, jeux ou films. Pour moi, ce n'est pas de machine à laver, pas de travail scolaire pour les enfants, et nous nous organisons pour ne pas faire travailler les commerçants.
Pour qu'il y ait une véritable relation à Dieu, nous avons instauré progressivement une liturgie familiale. Prière du matin d'offrande de notre journée, oraison en couple, prière en couple le soir. Les bénédicités nous permettent de remercier le Seigneur de ses dons et de sensibiliser les enfants au fait qu'ils ont la grâce d'avoir toujours une assiette remplie. Le chapelet en famille. Il est aussi un moyen, par Marie, de s'imprégner de l'exemple du Christ dans chaque mystère médité. Nous implorons la Sainte Vierge de nous conduire à son Fils. Le chapelet est l'occasion chaque jour de prier pour l'Église et le Saint-Père. Nous devons aimer l'Église et la servir. Nous prions donc pour les prêtres, les vocations et pour notre curé. Nous répétons sans cesse à nos enfants combien sans prêtre nous n'avons plus Jésus. Le chapelet permet aussi de confier bien des intentions qui sont l'occasion d'aimer gratuitement dans le secret de nos prières. Le chemin de croix, il est médité en famille tous les vendredis. Les stations évoquées en quelques mots et très simplement avec les enfants nous imprègnent de cet amour gratuit. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils Jésus. Et Jésus s'est offert gratuitement, par amour pour nous, en victime, jusqu'à la mort sur la croix, pour nous sauver.
Bref, nous essayons de surnaturaliser notre vie la plus quotidienne, de dire oui à la volonté de Dieu et de vivre avec le ciel jusque dans les plus petites choses. Les saints sont des compagnons de route que nous invoquons, que nous essayons de rendre proches de nos enfants pour que leur exemple et leur intercession, que par leur exemple et leur intercession, nous grandissions dans la charité. Par notre consécration à la Sainte Vierge, redite chaque jour, nous nous remettons entre les mains de celle qui est la servante du Seigneur dans l'humilité. Marie est notre mère, elle nous montre ce qu'est l'amour et elle nous conduit à l'amour. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.